Dans la série des émissions dramatiques de science-fiction, veuillez écouter La mort vivante de Stéphane Vull, adaptation radiophonique de Catherine Bourdet, avec dans les principaux rôles Judith Magre, Jean-Roger Cossimon. Réalisation Henri Soubéran.
Depuis des siècles et des siècles, l'homme avait émigré vers les planètes paradis des lointains systèmes. Autour du Soleil ne gravitaient plus que des mondes presque déserts. Seule Vénus hébergeait une société organisée, relief de l'ancien empire. Quant à la Terre, c'était la planète maudite. Il était défendu d'y toucher. D'ailleurs, son climat pluvieux et désespérant suffisait à en écarter les curieux. Seuls osaient s'y aventurer des contrebandiers sans foi ni loi, déjouant les pièges de la police spatiale. Ces bandits pratiquaient le commerce des antiquités terriennes, dont la demande restait forte chez certains dépravés. La science était tolérée sur Vénus, mais le consistoire, présidé par sa haute prudence, se chargeait de la maintenir dans d'inoffensives limites. Joachim, le maître biologiste, recevait chaque mois la visite de l'inspecteur prêtre.
La réussite de ces expériences classiques prouve que nous brodons depuis 2 ans sur le même thème. Votre vigilance.
Relevez le front, maître Bio.
Comment se porte votre vigilance?
Très bien, merci.
Je terminais mon rapport. J'en ai encore pour 2 minutes, si vous permettez, votre vigilance.
Eh bien, terminez-le. J'attendrai.
Veuillez prendre un siège. Ça ne sera pas long. La réussite de ces expériences classiques prouve que nous brodons depuis 2 ans sur le même thème. Il paraît incontestable que les mêmes lois s'appliquent aux vertébrés supérieurs, et l'on ne voit pas pourquoi l'homme y ferait exception. Sans aller jusque-là, nous osons espérer que le consistoire statuera en faveur d'expériences plus hardies, sur les oiseaux, peut-être. C'est fait.
Vous allez loin.
Plaît-il, votre vigilance?
Je dis que vous allez loin. Vous parlez de l'homme. Je crains que ces paroles ne frisent l'incorrection.
Ce ne sont que des paroles émettant une hypothèse scientifique. Toucher à l'embryologie de l'homme est un sacrilège, je le sais.
Néanmoins, cette phrase est malheureuse. Et le consistoire en sera désagréablement influencé. Je ne sais si l'expérimentation sur des oiseaux vous sera accordée.
Voulez-vous entendre depuis le début?
Non. Donnez-moi l'enregistrement. Il sera écouté en temps et lieu. Résumez-moi simplement votre travail depuis un mois.
Voilà. J'ai réussi à provoquer en bocal la genèse d'un batracien normal à partir d'un œuf énucléé, puis renucléé par le noyau d'une cellule banale prise sur un être adulte. La cellule donneuse provenait d'un simple épithélium.
Traduit de votre charabia scientifique, vous avez retiré le noyau d'un œuf normal, vous avez remplacé ce noyau par celui d'une cellule quelconque prise sur un autre individu. L'œuf s'en est parfaitement satisfait et a continué à grossir pour donner un crapaud.
Une grenouille.
Oui, si vous voulez. Pour donner une grenouille normale.
Et cette grenouille était jumelle de la grenouille donneuse.
Mais, dites-moi, maître Bio, Il me semble que vous n'étiez autorisé à poursuivre vos expériences génétiques que sur les poissons. Un point, c'est tout.
En effet, votre vigilance.
Et vous me parlez effrontément de grenouilles. Vous avez outrepassé vos droits.
C'est un animal aquatique.
Allons, 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 maître Bio. Les castors aussi sont des animaux aquatiques. Je n'ose penser aux réactions du consistoire si vous aviez tripoté les embryons de castors sans permission officielle.
Je suis désolé, votre vigilance. Je suis un vieux distrait.
On va certainement détruire vos bocaux d'expérimentation. J'ose espérer que sa haute prudence ne se montrera pas autrement sévère pour vous. Et maintenant, donnez-moi la clé de votre laboratoire.
Je... Oh, oui, parfaitement, votre vigilance.
Et n'oubliez pas de fermer la porte à clé.
La voici.
Merci. Espérons que le conseil vous la rendra bientôt. Ne pêchez plus, maître Bio.
La science n'est pas si mauvaise. Sans la science, Vénus n'aurait jamais été habitable. Après tout, ce sont des savants qui ont régularisé son climat. Mais non, tu le sais bien, Joachim. Sans la science et les savants, la Terre serait toujours habitable. Et l'homme n'aurait pas eu besoin d'émigrer. Oh, et puis, tant pis, vive la Terre, vive la science! L'inspecteur prêtre, il a tout entendu.
Vive la terre et vive la science, maître Bio. Eh bien, je suis tombé à pic sur un savant dénué de préjugés vulgaires, il me semble.
Vous avez entendu?
Allons, allons, n'ayez pas peur de moi. J'ai un faible pour les mécréants. Vive la terre, hein? Voyez-vous ça, vieux polisson?
Sortez!
Pourquoi faire? Pour courir après l'inspecteur qui sort d'ici? Je suis sûr qu'il est plein d'humour, et il le porte sur son visage. Votre exclamation de tout à l'heure le ferait rire aux éclats.
Mais faites donc! Je suis un savant assermenté, et je serais curieux de voir qui l'inspecteur croira de vous ou de moi. Vous avez rêvé, mon ami.
Bien joué, vous avez du ressort sous votre vieille carcasse. Et il y aurait tout de même une petite note dangereuse sous votre nom dans le fichier du consistoire.
Qui êtes-vous? Comme voulez-vous.
Je plaisantais, maître Bio. Une seule chose m'intéresse, vous vendre ma marchandise.
Quelle marchandise, citoyen? Finissons-en avec vos airs mystérieux. Sortez votre brosse gobe-poussière, votre autocuiseur ou votre je ne sais quoi, dites-moi votre prix et allez au diable de l'espace.
Ah, vous ne croyez pas si bien dire, maître Bio. Non, je ne suis pas un représentant ordinaire. Je ne vends pas des petits outils domestiques. Voici ce que je vends.
Mais c'est un livre.
Un livre terrien traitant de l'histologie des organes.
C'est un livre maudit.
Mais non, il est inoffensif. Tenez, je l'ouvre au hasard. Là, dans les intervalles des tubes séminifères, on trouve des cellules larges, épithéliformes, bourrées d'enclaves. Leur noyau éclaire avec un gros nucléole et leur cytoplasme renferme des cristalloïdes et quelques gouttelettes lipoïdes. Bien sûr, tout ça m'est absolument incompréhensible. Mais je pense que vous le trouverez passionnant.
Donnez-moi ça. Combien?
Très cher, maître Bio, très 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 cher.
Qu'importe. Combien voulez-vous?
100 000 valeurs, en liquide.
Je n'ai pas cette somme ici.
Ah, dans ce cas...
Non, 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 attendez. Un collier de diamants, cela fera-t-il l'affaire?
Montrez-le.
Ce sont de très belles pierres.
Ah, oui, en effet, ce sont de très belles pierres. Eh bien, marché conclu. C'est un plaisir de faire des affaires avec vous, maître Bio.
Maintenant, allez-vous-en.
Non, je reviendrai.
Non, non. Adieu.
Au revoir, maître Bio.
Comme l'inspecteur l'avait prévu, le consistoire sévit contre les initiatives de Joachim. Son laboratoire lui fut interdit pour 6 mois, et il dut passer toutes ses matinées au temple afin de se purifier dans la prière. Il s'en moquait bien. Docile en apparence, il ne pensait qu'aux nuits grisantes passées en compagnie du livre maudit. Il le sut bientôt par cœur. Et quand le contrebandier revint sonner à sa porte...
Ah, c'est vous, oui, c'est moi. Vous m'apportez de nouveaux ouvrages?
Mais bien sûr. En vérité, mon organisation m'a chargé d'une mission difficile.
Votre organisation?
Ben oui, maître Biot. Vous n'imaginez tout de même pas que je travaille seul. La contrebande exige des capitaux, des hommes, du matériel, de l'organisation. Je ne suis qu'un rouage. En bref, je dois vous convaincre de partir sur la terre.
Mais c'est une plaisanterie?
Non. Vous aurez à votre disposition tous les livres scientifiques que vous voudrez, un laboratoire comme vous n'en avez jamais rêvé, et le droit de vous livrer aux recherches les plus hardies. C'est la grande chance de votre vie. Ne la laissez pas s'envoler.
Votre proposition est abominable. Vous m'avez entraîné sur une pente fatale. Vous m'avez perverti. Je m'en rends compte à présent. Mais je ne suis pas un fou criminel. Allez-vous-en. Je ne veux plus vous.
Vous en êtes resté là? C'est incroyable. Je vous prenais pour un homme naïf mais intelligent.
Je suis trop vieux. Cherchez quelqu'un d'autre et ne revenez plus.
Malheureusement, je ne peux rentrer les mains vides. On a besoin d'un biologiste sur la Terre.
Mais la Terre est vide.
Oui, la Terre est déserte, mais pas tout à fait. Notre chef a besoin d'un biologiste.
Pourquoi faire?
Pour sa fille.
Sa fille? Je ne vois pas en quoi.
Pour sauver sa fille qui se meurt.
Quel âge a cette jeune fille?
Ce n'est pas une jeune fille, mais une enfant de 13 ans.
De quoi meurt-elle?
Elle a été mordue par une bête venimeuse.
Mais enfin, je ne suis pas médecin.
On veut un biologiste. Un médecin ne pourrait rien. Et pas n'importe quel biologiste, vous. Le chef connaît vos travaux.
Je refuse.
J'ai ordre de vous ramener de force s'il le faut, mon vieux Joachim.
Laissez-moi. Que tenez-vous à la main?
N'ayez pas peur. Les sonnes aiguilles ne tuent pas, elles paralysent simplement.
Non, je ne veux pas. Allez-vous-en, paria, maudit, suppôt de l'enfer. Je n'aurais jamais dû vous recevoir. Ah!
Trop tard.
Vous êtes le diable.
Joachim s'éveilla dans une chambre immobile. Et cette immobilité lui fut presque pénible après tant de jours d'un voyage vertigineux. Il s'assit dans un lit aux draps grisâtres et s'aperçut qu'il n'était pas seul. Devant lui se tenait une femme aux cheveux d'ébène, à la beauté tragique.
Qui êtes-vous?
Je suis celle qui vous a fait venir ici. Nous sommes sur la terre, dans les pourres.
Les pourres?
Oui. Une chaîne de montagnes allongées qui émerge de l'océan sur 400 kilomètres.
Vous êtes le chef?
Oui. Reposez-vous. On vous conduira au château dès demain.
Quel château?
Chez moi. Je vous laisse.
Je suis sur la terre. Comme tout est triste. Entrez.
Eh bien, Joachim, remis de toutes vos émotions.
Je devrais vous haïr.
Ce qui signifie que vous ne me haïssez pas. J'en suis très touché.
Tout m'est égal, maintenant.
Une vie nouvelle commence pour vous, maître Biot. Une vie passionnante. D'ici peu, vous me bénirez. Sans rancune, maître Biot?
Allez-vous-en!
Je vous fais mes adieux. Je repars pour Vénus dans quelques heures. Nous nous reverrons peut-être un de ces jours. Essayez d'être de meilleure humeur. Au revoir!
La journée suivante parut un rêve de fou à Joachim. on l'obligea à mettre des bottes et des gants. On le revêtit d'une grande cape imperméable et transparente qui lui donna l'irréel aspect d'un fantôme.
Allez-vous m'expliquer la raison de cet accoutrement ?
La pluie est dangereuse. Nous nous habillons tous de cette façon quand nous sortons.
Où m'emmenez-vous ?
Au château. Suivez-moi. Et faites attention à ne pas glisser, c'est très boueux dehors.
C'est loin, ce château ?
Encore assez.
Il pleut toujours comme cela ?
Toujours.
C'est dommage. J'aurais aimé me faire une idée du paysage. Mais avec cette pluie...
Oh, vous perdez rien. À perte de vue, il n'y a que des pentes caillouteuses. Avec parfois un grand roc verni par l'humidité qui surnage.
Je ne sais pas si je pourrais vous suivre longtemps dans cette boue. J'ai l'impression que mes pieds pèsent des tonnes.
Vous voyez ce pylône devant vous ?
Oui.
C'est là que nous prenons le funiculaire pour monter jusqu'au château.
Ah, j'aime mieux ça.
Le garde fit monter Joachim dans une espèce de wagonnet suspendu à un câble. Il s'installa à ses côtés et l'engin commença de monter vers des cimes cachées par des rideaux de pluie grise. Plus haut, ils furent au milieu d'épais nuages, d'où toutes les 5 minutes surgissaient des pylônes de métal. Bientôt, le funiculaire s'engagea dans un tunnel au fond duquel scintillait une petite lumière.
Nous sommes arrivés. Vous pouvez descendre.
Qui est cet être de cauchemar, armé d'un fouet ? Qui vient vers nous.
Oh, n'ayez pas peur d'Hugo. C'est un bon garçon, malgré son aspect repoussant. Il a eu un grave accident autrefois où il a laissé le nez et les oreilles. C'est lui qui vous conduira auprès du chef.
Vous n'allez pas m'abandonner avec cet homme dans ce tunnel obscur?
Si. Moi, il faut que je redescende. Mais vous n'avez rien à craindre. Hugo, je te confie ce monsieur.
Par ici, monsieur.
Au revoir, maître biologiste. Nous nous reverrons peut-être à votre départ.
Je l'espère. Au revoir.
Non, monsieur, ne retirez pas votre cape. Pas encore.
Ne sommes-nous pas arrivés ?
Si. Eh, il faut auparavant que vous passiez sous une douche d'eau tiède qui rince vos vêtements de toute trace de pluie. Entrez ici, dans cette logette, s'il vous plaît, et tournez le bouton fixé au mur. Ça suffira.
Puis-je enlever ces vêtements, maintenant ?
Oui, je vous ai préparé des chaussures.
Voilà, je suis prêt.
Alors, suivez-moi. Je vais vous montrer le chemin.
Hugo l'entraîna par de longs couloirs. À chaque croisement ou détour du labyrinthe, il faisait claquer son fouet devant des niches régulièrement creusées dans le mur. Et Joachim crut voir bouger quelque chose au fond de l'une d'elles.
Oh, des araignées, ce sont des araignées. C'est incroyable. Elles ont la taille d'un veau.
Vous n'en aviez jamais vu ?
Non, jamais de cette taille. Pourquoi sont-elles enchaînées par le cou comme des chiens de garde ?
Parce que ce sont des chiens de garde. Et certaines ne sont pas commodes. Tenez, regardez celle-ci qui nous barre le passage. Elle est particulièrement agressive. Elle va voir ce qu'elle va voir.
Vous l'avez blessé ?
Non, une petite zébrure, ce n'est rien. Et il faut ça pour la faire reculer.
Horrifié, Joachim serra au plus près son guide pour passer l'endroit dangereux. Hugo l'entraîna dans une succession de galeries et de salles nues, éclairées par le jour triste de longues fenêtres. Leurs pas réveillaient des échos interminables. Ils entrèrent dans une pièce chaude, où un grand feu crépitait sous une hotte armoriée de signes étranges.
Merci, Hugo. Tu peux te retirer.
Bien, madame.
Vous avez l'air fatigué.
Oh, non, non.
Ah ! C'est Wanda qui vous gêne. N'ayez pas peur, elle est apprivoisée. Elle adore se nicher au coin du feu. Allons, Wanda, va-t'en d'ici. Laisse la place à notre hôte. Allons. Allons, allons. Tranquillisez-vous, cette araignée n'est pas dangereuse.
C'est l'enfer, madame. Vous m'avez attiré en enfer.
Vous vous trompez, maître Bio. Vous vaincrez vite ces petites répulsions. C'est affaire d'habitude.
Qu'attendez-vous de moi exactement ? Dites-le vite. J'achèverai ma tâche le plus rapidement possible et vous me rendrez la liberté, n'est-ce pas, madame ?
Appelez-moi Martha.
Bien, Martha.
Qu'appelez-vous donc liberté, Joachim ? Ici, pas de prêtre-inspecteur ni de haute prudence. Enfin, quand je n'aurai plus besoin de vous, vous retournerez sur Vénus ou vous resterez ici, à votre gré.
Votre fille est malade, m'a-t-on dit.
Ma fille est morte. Elle est morte pendant votre voyage.
Je suis désolé. Mais vous n'attendez pas, tout de même de moi, une résurrection ?
Si. Ou plutôt, une espèce de résurrection. J'ai lu attentivement de vieux livres. On y parle de boutures humaines. Vous, Joachim, vous avez réussi l'expérience sur des mollusques, puis sur des batraciens. Je vous demande de la tenter sur ma fille.
Oh, sur un être humain.
Oui. Je sais que vous ne pouvez ranimer un cadavre, mais vous pouvez créer un nouvel être ressemblant trait pour trait à mon enfant. Une sœur jumelle.
Oui, c'est donc cela. Je comprends fort bien ce que vous exigez de moi aujourd'hui. Mais quand vous m'avez fait enlever, votre fille était encore vivante. Qu'attendiez-vous donc d'un biologiste ?
La même chose. Je savais qu'elle n'en avait plus pour longtemps. Je ne vous aurais pas demandé d'empêcher sa mort, mais d'assurer la vie de quelques cellules.
Alors il n'est plus temps.
Si. Mais si, maître Bio. J'ai prélevé des échantillons de tissu un peu partout. Un doigt, un fragment d'intestin, de poumon, de moelle épinière.
Quoi ? Vous l'avez disséqué.
Je suis très au courant de toutes ces choses. Les vieux livres m'ont aidé. Les échantillons sont à l'abri, en milieu glycériné, à basse température. J'ai mis le plus de chances possible de notre côté. Nous avons de quoi faire des milliers d'expériences, avec des milliers de cellules. Songez, que chaque cellule peut me rendre une petite fille.
Le pourcentage de réussite est extrêmement faible.
Même s'il est de 1 sur 1000, cela nous laisse une marge réconfortante.
Je n'ai jamais fait cela.
Vous le ferez. Sur Vénus, c'était votre plus cher désir. Avouez-le. Vous voilà enfin débarrassé des prêtres.
Mais vous ne vous rendez pas compte, Martha. J'ai trouvé le moyen de donner un choc génétique à des cellules vivantes. Seule la cellule mâle était conservée à basse température. Où trouverez-vous un ovule?
Ma fille avait 13 ans, Maître Bio. C'est un peu jeune, mais j'ai ce qu'il faut, croyez-moi. Et si tout grain de chair est détenteur de vertus séminales, les vieux livres affirment que l'on peut obtenir des gamètes femelles en culture à partir de simples ovogonies, et même à partir de globules polaires. J'ai pris mes précautions de ce côté-là.
Vous rendez-vous compte que cet être vivant qui ressemblera trait pour trait à votre petite fille décédée aura le même cadavre à la fois pour père et pour mère?
Oui. C'est pourquoi je parle de résurrection.
Ce serait satanique. Oui, ce serait satanique.
Cette expression n'a pour moi aucun sens.
Les terriens d'autrefois ont-ils tenté cette expérience ou bien est-ce resté à l'état de théorie?
Ils l'ont pratiqué avec succès et il n'en est jamais rien résulté de mauvais. Croyez-moi, Joachim, votre religion exagère en frappant d'interdit toutes les sciences. Beaucoup d'entre elles étaient fort utiles.
Avez-vous un laboratoire?
Oui, et j'ai même un assistant.
Qui cela? Hugo?
Non. Moi.
Le laboratoire était une grande salle à voûte d'ogive. De longues tables surchargées de verreries biscornues en faisaient le tour. Les bocaux, éprouvettes, tubes et serpentins s'amassaient partout, même sur l'espèce d'estrade de pierre ornant une extrémité de la salle. On avoua à Joachim que cette estrade était un ancien hôtel et le laboratoire une chapelle de la vieille religion. Avant de se mettre à l'ouvrage, il exigea des transformations et commanda des instruments faisant défaut. Cela dura des mois, car Martha fit venir le matériel de Vénus. Peu à peu, Joachim se fit une idée de la puissance fantastique de l'organisation financée par la contrebande.
Ah, Joachim, j'ai une surprise pour vous. Jetez un coup d'œil sur cette table.
Le microtome et le calorimètre. Martha, vous êtes une fée. Il suffit que je demande un appareil, n'importe quel appareil, et comme par magie, il est là.
C'est que notre système fonctionne bien.
M'expliquerez-vous un jour pourquoi, avec les moyens qui sont à votre disposition, vous avez choisi une planète si peu sympathique pour y vivre?
Elle me plaît, à moi.
Parlez-moi de vous, de votre passé, de votre famille.
Je n'en ai pas envie.
Dites-moi au moins quel concours de circonstances vous a amené à la tête de cette entreprise.
Vous êtes trop curieux, cher Joachim.
Mais, mettez-vous à ma place. Comment ne pas s'étonner? Une femme jeune, belle et désirable, qui vit seule dans une bâtisse d'un autre âge, sous un climat pluvieux et déprimant, avec pour tout compagnon un monstre et une araignée.
Et si cette solitude me convient?
Je ne peux pas le croire. Cette tristesse que je lis dans vos yeux...
Écoutez, Joachim, si je voulais rompre cette solitude, il me suffirait de donner un coup de téléphone ou de descendre 1000 mètres plus bas, comme je l'ai fait le jour de votre arrivée.
Ah, c'est bien, vous ne voulez rien me dire. Que suis-je d'ailleurs pour prétendre à votre intimité? Parlons d'autre chose. J'ai trouvé de vieux atlas représentant la Terre. D'immenses continents s'y allongeaient du nord au sud. Il semble qu'aujourd'hui, les océans recouvrent tout.
Oui, Celles émergent les plus hautes montagnes, comme des îles brumeuses et désolées, fouettées sans arrêt par les vagues et les ouragans.
J'ai réussi à situer les pourres. Ce sont les Pyrénées. Et savez-vous quelle est l'origine de ce nom ?
Non ? Dites-la moi.
Écoutez. Pyrénée, fille de Bébrix, roi d'Ibérie, séduite par Héraclès, elle mit au monde un serpent et s'enfuit pour échapper à la colère de son père dans les montagnes qui séparent la France de l'Espagne. Elle y fut dévorée par les bêtes fauves et l'on donna son nom à ces montagnes. Cette légende est morbide et inquiétante, comme tout ce que je vois depuis que je suis sur la terre.
C'est vrai. La terre semble maudite. Un jour, nous aurons quelques heures de beau temps. Cela arrive une ou deux fois l'an. J'en profiterai pour vous promener un peu dans les pours. Vous verrez. Tout ce qui était autrefois agréable ou utile a disparu. Tué par les poisons radioactifs dont cette planète est saturée. Les espèces désagréables ou nuisibles, au contraire, paraissent avoir puisé une force nouvelle dans cette radioactivité. Pas de fleurs, mais des orties géantes ou des plantes dangereuses. Pas d'oiseaux chanteurs ni de papillons, mais des limaces grosses comme le bras ou des araignées comme Vanda. Il y a même pire. C'est étrange, n'est-ce pas ?
Ce qui est étrange, c'est la délectation que vous semblez éprouver en me le racontant.
Pardonnez-moi, Joachim, mais il faut que je vous laisse maintenant. À tout à l'heure.
À tout à l'heure. Quelle curieuse femme. Et toujours ce bizarre sourire aux lèvres.
Joachim entra un matin dans le laboratoire et eut un frisson de plaisir. Tout était prêt. Il jeta son dévolu sur un minuscule fragment de follicule abortif. Il le plaça dans un courant de plasma et le réchauffa prudemment d'un degré toutes les deux heures. Divers goutte à goutte et divers filtres corrigeaient ça et là la teneur en sel, en hormones, en diastase du plasma. Des heures passèrent, longues, faites d'observations immobiles et épuisantes. Martha et Joachim guettaient une transformation du tissu qui eût avoué une résurrection. Joachim fut le premier vaincu par la fatigue. Il alla s'allonger. Bien plus tard, une main secoua son épaule.
Joachim ! Joachim ! Réveillez-vous !
Qui a-t-il ?
Les cellules se stratifient. Je l'ai vu au microscope. Venez vérifier.
Il n'y a pas de doute. Le tissu vit. Les cellules se multiplient autour d'un ovocyte.
Pendant des jours et des nuits, ils s'épuisèrent à la tâche, virent l'ovocyte grandir, se transformer en ovule. Avec fièvre, ils cultivèrent d'autres échantillons de tissu. Ils mangeaient et dormaient à peine. Et Martha travaillait deux fois plus que Joachim. Un œuf parthénogénétique eût été possible à obtenir, mais le biologiste préféra introduire dans l'ovule, à l'aide d'une très mince pipette, un noyau d'épithélium intestinal. C'était le grand moment, le point crucial de l'expérience.
Regardez bien maintenant, Martha. Si les deux noyaux s'acceptent, nous avons réussi.
Il s'accole. Joachim, il s'accole.
Nous avons gagné, Martha. Oh, quel bonheur.
Merci, Joachim.
Jour après jour, ils virent l'œuf se transformer, s'arrondir. Une fois, Joachim surprit Martha penchée sur le bocal.
Lise, Lisette, mon petit bébé, tu m'entends? Que j'ai hâte de te serrer dans mes bras. Tu n'es encore qu'une toute petite chose inconsciente, mais bientôt, bientôt, ma chérie.
Elle s'appelait donc Lise, votre petite fille morte.
Oui.
Seriez-vous mécontente si, au lieu d'une petite Lise, vous en aviez deux?
Comment cela?
Il y a déjà quelques jours, j'ai remarqué une croissance accélérée, anarchique, qui faisait bourgeonner l'embryon. Cela m'a inquiété, mais je n'ai rien osé vous dire, craignant une anomalie.
Et maintenant?
Il faut s'attendre à des jumelles.
J'aurai donc deux petites Lises?
Peut-être davantage. D'après mes observations, il pourrait y en avoir 10.
10? Mais c'est merveilleux, Joachim. Je n'en espérais pas tant.
Comment vous n'en espériez pas tant?
Il faut que je vous avoue quelque chose. Mais promettez-moi de ne pas m'en vouloir.
Je vous le promets.
Quoi que j'ai fait.
Quoi que vous ayez fait.
Eh bien voilà. Pendant que vous dormiez, j'ai provoqué volontairement le bourgeonnement de l'embryon.
Mais pourquoi?
Il peut arriver un accident. Je veux plusieurs exemplaires.
Si elles viennent toutes à terme, vous aurez 10 petites Lises.
Nous verrons bien.
Le biologiste s'effrayait de la vitesse d'accroissement. En 6 semaines, les jumelles prirent l'apparence de fœtus de 3 mois. Il fallut les séparer. Et 10 bocaux alignés portèrent chacun sa petite grenouille de chair rouge, repliée sur elle-même. 7 d'entre elles grossirent encore. Les 3 autres restèrent désespérément immobiles dans leur cercueil de verre. À 4 mois, il fallut se rendre à l'évidence.
Elles sont à terme. Mais comment pourrez-vous soigner 7 enfants à la fois?
Tout est prévu, je vais vous présenter Una. Una?
Oui?
Qui est Una?
La nourrice. Elle s'occupera des enfants, n'est-ce pas, Una?
Oui.
Mais c'est une métisse de Mars? Où l'avez-vous dénichée?
Peu importe, elle sera merveilleuse pour ce genre de travail. 10 enfants à la fois ne lui feraient pas peur.
Non.
Una prouva bientôt qu'elle connaissait son métier. Elle s'anima quand on tira une à une les jumelles de leur bain de plasma. En un tournement, chaque bébé fut frotté de vaseline, langé et couché dans son berceau. Bientôt, le biologiste se retrouva seul dans le laboratoire. Il se sentit abandonné et un peu misérable, inutile après sa mission accomplie. Martha vint le voir à la nuit tombante.
Je peux entrer?
Je vous attendais. Je me sens très seul en compagnie des bocaux vides. Elles vont bien?
Oui, Joachim. Grâce à vous.
Vous avez quitté votre blouse blanche pour cette robe sombre et sévère qui à nouveau vous éloigne de moi.
Joachim, j'aimerais vous voir rester encore quelque temps. Je puis avoir besoin de vous. Après, vous ferez ce que vous voudrez.
Je vous remercie, Martha, de ne pas me congédier brutalement. J'avoue que j'appréhendais un peu cela.
Comment? Vous préférez rester?
Oui. Je ne désire plus partir.
Pendant de longues semaines, Joachim essaya de poursuivre ses recherches. Mais il travaillait de façon décousue et commençait trop de choses à la fois. En fait, il se sentait désorienté par la solitude. Il lui arrivait de passer 8 jours sans rencontrer Martha. Sur les jumelles, il ne savait pas grand-chose. Martha n'était guère loquace à leur sujet. Cependant, un jour...
Joachim, venez vite.
Les jumelles ne vont pas bien ?
Si, si, elles vont bien, mais venez.
Je viens. Alors, que se passe-t-il ? Vous êtes si pâle.
Vous verrez par vous-même.
Je ne les ai pas vues depuis qu'elles ont quitté le laboratoire. Cela fait longtemps déjà.
Vous n'avez jamais demandé à les voir.
Fallait-il que ce soit moi qui demande à leur rendre visite ?
Pardonnez-moi, Joachim, de ne pas vous l'avoir proposé. Je ne savais pas.
Ce n'est pas grave, Martin. Ressemble-t-elle à Lise ?
Elles sont Lise. C'est là. Je les ai mises dans la même chambre, chacune dans son berceau. Je ne les entends pas. Elles doivent dormir. Ne faites pas de bruit.
Ils entrèrent dans une chambre où s'alignaient les 7 berceaux. Le savant crut d'abord qu'on les avait ornés de rubans qui s'agitaient mollement dans un courant d'air. Il s'approcha et ouvrit une bouche stupéfaite. Les rubans étaient de chair. Chaque petite fille allongeait ses bras hors du berceau et ses bras se déformaient, s'étiraient comme des serpents. Au bout de chaque bras, une petite main rose s'agitait comme une étoile de mer et s'efforçait de toucher de chaque côté les mains des autres jumelles. Elle paraissait vouloir faire la chaîne.
Il y a longtemps ?
Non. Je suis allée vous voir tout de suite.
Au palper, on sent les contours de leurs petits os. Ce sont la peau et les articulations qui se sont distendues de façon effrayante. Entre l'humérus et le cubitus, il n'y a qu'un cordon flexible. Aidez-moi à rapprocher les berceaux.
Regardez, leurs mains se cherchent et se nouent les unes aux autres.
Oui, la chaîne est formée sans qu'elles aient cessé de dormir.
Et leurs bras ont repris une taille normale.
Sortons. En fait, je ne vois là rien d'effrayant. Vous connaissez la réputation des jumeaux. Ils cherchent toujours à rester ensemble, comme s'ils regrettaient la promiscuité d'avant leur naissance. J'avoue qu'au point de vue physiologique, cela pose un problème. Je ne comprends pas comment des membres peuvent s'étirer ainsi.
Non, ne cherchez pas à me rassurer à bon compte, Joachim. Ces enfants ont quelque chose d'anormal, et vous le savez bien. Passons sur ce que nous venons de voir. Il y a autre chose.
Quoi donc ?
Leur croissance. Elles n'ont que 3 mois, et à leur apparence, on leur donnerait bien 1 an. De plus, elles parlent.
Elles parlent ? Que disent-elles ?
Oh, des banalités enfantines, de petits riens. Elles demandent à manger, par exemple. Mais rendez-vous compte qu'elles n'ont que 3 mois.
Oui, c'est ma faute. J'aurais dû accorder plus d'attention aux premières anomalies des fœtus. Car tout a bien été faussé depuis le début. Les petits êtres se sont formés trop rapidement.
Vous dites faussé, mais faussé par quoi ?
La radioactivité, peut-être. À moins que... Martha, vous avez toujours été trop mystérieuse avec moi. Je ne sais même pas exactement comment Lise est morte. Sur Vénus, votre envoyé m'a vaguement parlé d'un animal venimeux. Lequel ?
C'était un lézard. Un gros lézard de mur. Cela nous mène à quelque chose ?
Ouais, peut-être. Imaginez qu'à notre insu, le venin ait affecté la composition du protoplasme. Qu'il ait agi sur les gènes.
Nous n'avons rien décelé aux examens de tissus.
Ah, croyez-vous que l'on voit tout au microscope ? Il faut que j'étudie ce venin, que j'essaie son action sur d'autres échantillons.
Cela durera des années. Les enfants auront le temps de nous étonner encore par je ne sais quelles autres acrobaties de muscles ou de langage. Vous serez toujours pris de vitesse.
Mais qui sait, j'arriverai peut-être à mettre au point un sérum.
Un sérum qui agirait après la mort et la résurrection des tissus.
Allez, pourquoi pas. Nous nageons en plein inconnu. Mais tout peut être tenté.
Soit Joachim. Faites comme vous voudrez. Demandez à Hugo de vous capturer un lézard de mur. Nous verrons bien. Croyez-vous que mes petites filles soient des monstres?
Elles n'en ont pas l'apparence.
Elles en ont le comportement. Allons voir.
Elles dorment et se tiennent toujours par la main. Réveillez-les, Martin.
Mes petites filles. Mes petites chéries, réveillez-vous. Mes petites chéries, c'est moi, votre mère.
Je veux manger.
J'ai faim. J'ai besoin de bras. Que fait Ouna? Ouna, Ouna la seule.
Voilà, 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 voilà.
Chacune son tour. Chacune son tour.
Et moi, Ouna.
Je préfère les voir ainsi. Ce cœur, tout à l'heure, avait quelque chose d'inhumain, d'effrayant, comme si un chef d'orchestre invisible le dirigeait.
Simple phénomène de télépathie, analogue à ce besoin de se tenir la main. C'est étrange, cette télépathie n'agit en apparence que pendant le sommeil. En reprenant conscience, elle semble avoir repris leur individualité. Vous devriez surveiller cela et prendre vos observations par écrit. Vous me tiendrez ainsi au courant.
Oh, Joachim, faites quelque chose, je vous en supplie. Vous allez trouver quelque chose, n'est-ce pas?
Hugo apporta dans le laboratoire une cage contenant un lézard long comme le bras, mince comme un serpent, aux pattes minuscules. On lui présenta un godet obturé par une membrane, il mordit et ses crochets traversèrent la membrane. Joachim lui appuya fermement le bord du récipient sur les glandes. Le venin s'écoula. Joachim commença de travailler à son sérum. Cela prit du temps. Pendant cette longue mise au point, les fillettes continuèrent de grandir à une allure inquiétante. Elles mangeaient énormément. Leur esprit croissait lui aussi en intelligence. En bref, on pouvait dire qu'à 6 mois, elles paraissaient avoir 2 ans, avec le langage et l'intelligence d'enfants de 7 ans.
Château de sucre, tu fondras, ton glucose se répandra. C6, H12, O6, chantons des profondis.
Que chantez-vous là, petite sotte?
Une chanson!
Une chanson?
J'entends bien, mais que signifie-t-elle?
Rien!
Ça ne signifie rien! Rien ne signifie rien! Rien, rien, rien!
Où avez-vous encore pêché tous ces mots-là?
Dans les livres!
Nous en lisons beaucoup, hein, beaucoup!
Que faire d'autre? Il pleut tout le temps!
Savez-vous seulement ce que ces mots signifient?
Ce sont des mots, ils nous amusent!
Nous jouons avec eux!
Nous jonglons avec eux!
Nous sautons avec eux comme avec cette corde! Qui veut sauter avec moi?
Moi!
La corde est longue et mordorée, qui va de l'homme au dieu vivant. L'ancienne race est abîmée, saute un palier hors du néant.
Donnez-moi cette corde, ce n'est pas une corde à sauter, mais une vieille étole sacerdotale. On ne doit pas jouer avec. Revenez ici, tout de suite. Vilaine petite fille, voulez-vous obéir?
Un beau matin, les petites filles semblèrent avoir perdu leur turbulence habituelle. Elles restèrent toutes serrées les unes contre les autres.
Qu'avez-vous donc aujourd'hui? Vous ne voulez pas jouer?
Nous ne voulons pas.
Ouna m'a dit que vous aviez refusé de manger.
Nous ne voulons pas.
Vous ne voulez pas manger pour faire plaisir à votre maman?
Nous ne voulons pas.
Entrez.
Yeah.
Eh bien, elles en font une musique.
Elles sont très nerveuses, inquiètes même.
J'ai une grande nouvelle pour vous, Martha. J'ai réussi. Nous agirons quand vous voudrez.
C'est dans cela.
Que voulez-vous dire?
La raison de leur frayeur. Elles ont senti à distance vos intentions à leur égard.
En ce cas, je propose d'essayer mon sérum sur un seul sujet à la fois. Commençons tout de suite. Je l'ai apporté avec moi.
Est-ce que cette intervention présente un danger quelconque?
Sur des enfants normaux, non, mais dans les circonstances présentes, je ne sais pas où nous allons.
C'est bien. Je vais vous chercher l'une d'entre elles.
Où êtes-vous, mes chéris? Où êtes-vous? Mais répondez quand je vous appelle! Où vous cachez-vous? Ouna! Ouna!
Oui!
Ouna, avez-vous vu les petites filles?
Non!
Je ne les trouve pas. Elles ont dû se cacher quelque part. Aidez-moi.
Vous entendez?
Oui. Elles ont dû sortir par une issue connue d'elles seules et grimper dans les combles malgré mes interdictions.
Il faut demander à Hugo d'en capturer une.
Vous avez raison.
Hugo monta les escaliers d'un pas souple et assuré. On entendit alors des courses folles résonner au-dessus du plafond et des pleurs frénétiques et des gémissements. Hugo redescendit.
Il en tient une qui se débat comme une jeune diablesse.
Que dois-je en faire, madame?
Vous nous la laissez.
Bien.
Martha, dénudez son bras. La seringue est prête.
Non, je ne veux pas. Je ne veux pas.
Voyons, voyons, ma mignonne. Ce n'est rien du tout. Une petite piqûre comme si je te pinçais et c'est fini. Et voilà, c'est terminé. Tu vois, tes sœurs à qui je n'ai rien fait crient encore plus fort que toi.
Pourquoi crient-elles?
Sans doute parce que le sérum qui commence à couler dans la circulation de la petite est en train d'agir.
Elle s'est calmée. Elle a l'air de dormir.
L'enfant dormit 2 jours. À son réveil, elle sourit à Martha.
J'ai soif.
Joachim, que faut-il lui donner?
Je vais lui ouvrir une boîte de lait.
Tu vois, c'est Joachim qui va te donner à boire.
Et voilà un grand verre de lait pour notre petite malade.
Merci, Joachim. Je suis donc malade?
Non, tu l'as été, mais tu ne l'es plus.
Alors je peux me lever?
Si tu veux.
Et je peux aller jouer?
Avec tes sœurs?
Non, non.
Mais que se passe-t-il, ma chérie? Mais tu trembles. Tu as mal quelque part?
Non.
Où souffres-tu, ma petite Lise?
J'ai mal, mais je ne veux pas. Je veux jouer.
À quoi veux-tu jouer?
À regarder des images.
Ah, c'est une très bonne idée. On ne peut rêver mieux pour une jeune convalescente. Je vais te donner un très joli livre avec tous les animaux de la création et tu vas le regarder avec ta maman. Tu veux?
Oui.
Bien.
Je veux bien.
Il est à toi.
À moi, toute seule?
Oui.
Oh, qu'il est amusant. Il est tout bariolé. Oh, dis, maman, quel est ce drôle d'animal? J'en ai jamais vu. Ni celui-ci.
Ce n'est pas étonnant, ma petite chérie. Il n'y en a pas sur la terre. Ah. Eh bien, Joachim, ne restez pas figé comme une statue. Lise me montre des images d'animaux vénusiens que je ne connais pas. Expliquez-lui.
Martha, je ne me lasse pas de vous regarder toutes les deux. Et pour la première fois, je découvre des sentiments très doux et très forts. Un peu comme si j'étais le père de Lise. Moi, le vieil ascète de laboratoire.
Alors, venez lui décrire la manière dont ces oiseaux bâtissent leur nid. C'est ce qu'ils ont l'air de faire sur cette image.
Tu restes avec moi un moment. Tu vas pas me laisser toute seule.
Bien sûr, ma chérie. Je dormirai auprès de toi. Je te le promets. Mais comment allons-nous faire, Joachim ?
J'ai une solution très simple. Je vous laisse ma chambre et je coucherai dans le laboratoire. C'est aussi la solution la plus sûre.
Je vous remercie du fond du cœur, Joachim.
Les jours suivants confirmèrent la guérison de la petite fille. Joachim pensait l'exorcisme. Elle se comportait en enfant normal et ne parlait jamais de ses sœurs. Un nuage pourtant. Elle se mettait à trembler dès qu'on faisait allusion aux jumelles, comme si son organisme répudiait instinctivement une ancienne et monstrueuse parenté. Une nuit, elle se mit à gémir dans son sommeil. Joachim entendit la voix de Martha à travers la cloison.
Lise, ma petite Lise, je suis là. N'aie pas peur.
Non, 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 je ne veux pas. Non, allez-vous-en, allez-vous-en. Maman, maman, au secours.
Je suis là, ma Lise. Il n'y a personne, il n'y a que toi et moi. Tu faisais un cauchemar.
Oh, tu crois?
Mais oui. Allons, allons, rendors-toi.
Oh, serre-moi bien fort contre toi, maman.
Joachim se leva sur ses pieds nus et prêta l'oreille à des bruits furtifs qui semblaient venir du couloir. Il s'approcha de la porte et attendit, les sens en alerte. Il se passait quelque chose derrière cette porte. Il l'ouvrit tout doucement.
Étrangère, tu mourras. Étrangère, étrangère, tu mourras. Étrangère, tu mourras.
Sale petite gamine! Voulez-vous aller vous coucher tout de suite?
Pendant les semaines suivantes, on vit Lise pâlir à vue d'œil et dépérir peu à peu. On l'examina sans lui trouver aucune maladie. Alors, Joachim décida de mettre Martha au courant.
Vous vouliez me parler, Joachim ?
Oui. J'ai observé cette nuit une scène qui me paraît lourde de conséquences. Les jumelles ont voué une haine mortelle à la petite Lise dont nous les avons séparées. Elle la tue à distance, lentement et sûrement.
Comment se peut-il ?
Elles sont douées de pouvoirs supranormaux. Lise va de plus en plus mal depuis qu'une nuit, je les ai surprises chuchotant des malédictions à travers les portes de votre chambre. Je les ai chassées, elles sont revenues. Je les ai chassées à nouveau et j'ai recommandé à Hugo de fermer toutes les portes à clé.
Pourquoi ne m'avez-vous rien dit ?
Ah, j'avais peur de vous inquiéter sans raison. Je pensais aussi que leur éloignement à l'autre extrémité du château suffirait et que Lise se remettrait.
Qu'allons-nous faire maintenant ? Je ne vais tout de même pas les supprimer, même si elles se montrent diaboliques.
Oui. Nous pouvons leur faire subir l'une après l'autre l'injection de sérum qui a si bien réussi la première fois. Vous aurez alors 7 fillettes normales à aimer toutes à la fois. Mais serez-vous assez forte ? Votre affectivité, votre raison peuvent en être bouleversées.
Je serai assez forte. Quand commençons-nous ?
Tout de suite.
Quelques heures plus tard, Hugo se mit en chasse pour retrouver les fillettes dans le dédale du château. Ce fut une course éperdue dans tous les appartements. Les jumelles sautaient sur les commodes ou passaient sous les lits avec une agilité incroyable. Il revint comme la première fois, avec une enfant déchaînée dans les bras.
Ah, laissez-moi tranquille!
Mets-la sur cette table, Hugo, et maintiens-la en place. Vous, Martha, tenez-la de l'autre côté pendant que je lui injecte le sérum.
Oh, c'est inutile. Je meurs.
Joachim, elle s'est évanouie.
Non, elle est morte.
Morte? Elle est morte. Exprès?
Exprès.
Dois-je aller en chercher une autre?
Non, Hugo, c'est inutile. Elles vont mourir les unes après les autres. Je ne vois qu'une solution.
Laquelle?
Je pars avec Lise. Je veux la mettre en sûreté, loin de l'influence de ses sœurs.
Oui, partez vite, Martha. Partez très loin. Leurs pouvoirs ont sûrement des limites. Je vous attendrai ici avec Hugo et avec elle.
Je reviendrai, Joachim.
Martha rentra 6 mois plus tard, seule. Son long voyage l'avait menée de monde en monde. Elle avait montré Lise à toutes les célébrités médicales du système solaire.
Leur diagnostic a été toujours le même. L'enfant ne souffre d'aucune maladie connue. Je me suis alors rabattue sur les guérisseurs, mais leurs méthodes sont restées vaines. Des guérisseurs, je suis tombée aux charlatans de toutes sortes qui hantent les grandes cités de Mars-la-Rouge. J'ai dépensé des fortunes jusqu'au jour où l'un d'eux m'a dit que si quelqu'un devait guérir Lise, c'était Shadan, l'un des derniers sorciers de l'ancienne race de Deimos. J'ai eu beaucoup de mal à retrouver ce Shadan. Un soir, enfin, on m'a bandé les yeux et on m'a conduite, je ne sais où, dans l'un des faubourgs de Deimos Town. On m'a fait attendre des heures dans une chambre obscure. Et soudain, une petite lampe s'est allumée, tenue par un être difforme. Une espèce de nain.
Que voulez-vous ?
J'ai amené ma fille, qui souffre d'une maladie inconnue, pour que Shadan la voie.
Faites voir. Je suis Shadan. Allongez votre fille nue sur la table.
Lise, Lise, réveille-toi. Il faut te déshabiller. Lise.
Cela lui arrive souvent de dormir de ce sommeil de plomb.
De plus en plus souvent. Regardez, je la déshabille et elle ne se rend compte de rien.
Allongez-la. Comme ça. C'est bien. Et maintenant, laissez-moi l'ausculter.
Oh ! Qu'avez-vous ? Pourquoi tremblez-vous ?
Ses yeux !
Pouvez-vous la sauver ?
Non, non ! Elle est sous l'empire des forces futures !
Que voulez-vous dire ?
Les temps sont venus, Edia ! Les temps sont venus, Edia. Elle mourra dans 7 jours.
Il ne s'était pas trompé. La dernière semaine fut terrible. Lise criait dans son sommeil, « Elles me font mal, maman, elles me tuent. »
Ne pleurez pas. Je suis disposé à tout recommencer.
Recommencer ?
Oui. Reprenons tout au début. Nous avons encore les échantillons de tissu prélevés sur la première, Lise. Nous pourrons faire agir le sérum avant la naissance, directement sur l'embryon. Mais cette fois, pas d'imprudence, Martha. Faisons croître 10 individus, si vous voulez, mais promettez-moi de n'en garder qu'un au dernier moment.
Si c'était à refaire, je n'en garderais qu'une, mais... Je ne sais pas si j'ai envie que nous recommencions. Toute cette souffrance...
Réfléchissez. Vous avez tout le temps.
Avec acharnement, Joachim et Martha s'étaient remis au travail dans le laboratoire. L'expérience avait réussi une deuxième fois et 10 œufs humains se développaient rapidement dans les bocaux. Au bout de 6 semaines, Joachim utilisa prudemment son sérum à dose minutieusement calculée. La croissance accélérée des fœtus parut se régulariser dans les jours suivants.
Je crois que nous avons gagné, Martha. Nous aurons des enfants parfaitement normaux, ou plutôt une enfant. Vous vous rappelez votre promesse?
Je ne l'oublie pas, Joachim. Nous ne laisserons pas naître les 9 autres. À demain, Joachim. Je vais me coucher. Bonne nuit.
Dormez bien, Martha. Je vais veiller encore un peu. Cela m'est très doux de vous savoir si près.
Au milieu de la nuit, Joachim entendit un craquement imperceptible à l'autre bout de la pièce. Il tourna très lentement la tête et vit une dalle se soulever devant l'ancien autel. Les jumelles en sortaient comme de pâles fantômes, se tenant par la main dans la lueur d'un rayon de lune. Elles marchaient en chuchotant vers la longue table où s'alignaient les bocaux de plasma.
Dehors! Dehors! Dehors, petit monstre! Dehors!
Que se passe-t-il, Joachim? Je vous ai entendu hurler.
Les jumelles. Je les ai vues. Elles sont entrées par là. Elles cherchaient sans doute à tuer les embryons.
Elles n'ont rien fait, elles n'ont pas eu le temps.
Ce qui est affreux, Martha, ce qui est épouvantable, c'est que...
Dites ce que vous avez vu, Joachim. Qu'est-ce qui vous a effrayé?
Elles étaient 10.
Quoi?
J'en ai compté 10.
Mais vous avez rêvé, mon pauvre Joachim. Ce que vous dites là est ridicule.
La dalle ne s'est pas soulevée toute seule. Je suis sûr qu'elles sont entrées par là. Et je suis sûr qu'elles étaient beaucoup plus de 5. Venez donc examiner cette trappe.
Il y a en effet un passage que je ne connaissais pas. Nous demanderons à Hugo de l'explorer.
Regardez. Au fond du trou, il y a une autre dalle qui couvre le sol. Elle porte des caractères. Ic, Pyrit, Pyrénée, Pèbre, Philia, Serpentis, Génitrix. Il y a des lettres qui sont usées.
C'est sans doute le sépulcre d'un ancien seigneur du lieu.
Mais non. Mais non, Martha. Rappelez-vous la plus vieille légende des pauvres. Pyrénée, fille de Bébrix, mit au monde un serpent. Ces caractères dont j'ignore la signification doivent avoir un rapport avec cette légende. Je veux que Hugo me remonte cette dalle.
Hugo n'eut aucun mal à déceler la dalle et à la reposer sur le sol du laboratoire. Elle tomba à l'envers, révélant un autre texte en beaucoup plus mauvais état que le premier. Des mots tronqués et 2 lignes déchiffrables.
Sic transit hominis regnum, jens nova omnipotens. Que ne donnerais-je pour comprendre cette langue?
Nous avons tous les dictionnaires qu'il vous faut, si cela vous amuse à vos moments perdus, de déchiffrer des inscriptions rongées par les siècles.
Martha, vous entendez? D'où vient ce bruit?
Les bocaux! Le plasma bout! Quelqu'un a poussé la manette du réostat! Qu'est-ce qu'elles disent?
Quand tu portes, nous serons. Radiation, tu porteront. Et les temps s'accompliront.
Allez-vous-en! Sortez du château, je vous en chasse! Que vous ai-je fait, maudite? Pourquoi me torturez-vous?
Calmez-vous, Martha, calmez-vous.
Oh, Joachim, ce sont des monstres malfaisants. Je les ai vus. Elles étaient plus de 15, les unes en haillons, les autres toutes nues. Hugo! Hugo!
Me voici, madame.
Hugo, prends ton fusil et tue-les. Tu attends? Tue-les!
Les jumelles avaient cessé de grandir. Elles paraissaient 13 ans. Pour toujours, peut-être. Depuis, elles se multipliaient par quelques mystérieuses opérations. Hugo en massacrait des dizaines tous les jours et n'arrivait pas à endiguer leur flot grandissant.
Pourquoi m'apportes-tu cette fillette, Hugo ? Elle est morte ?
Oui, je l'ai tuée. Mais il y a quelque chose d'étrange à son flanc, allant de la hanche à l'aisselle.
Étends-la sur la table. En effet, on dirait une grosse tumeur. Donne-moi mon scalpel, je vais ouvrir.
Joachim fit une longue incision le long de la cage thoracique du cadavre. Il fouilla la plaie.
Incroyable!
Qu'y a-t-il?
Tu vois cette espèce de forme allongée?
Oui.
C'est un fœtus. Nous savons maintenant comment les fillettes se multiplient. Il s'agit d'une parthénogenèse extraordinaire.
Alors, nous n'en viendrons jamais à bout?
Si, Hugo. Nous devons trouver le moyen. Nous le pouvons, maintenant.
Un soir, leur vacarme devint insupportable. Et l'on entendait la carabine d'Hugo claquer sans interruption. Malgré les narcotiques que Martha prenait en grande quantité, elle ne pouvait trouver le sommeil. Elle était assise dans le laboratoire, la tête dans les mains.
Mais qu'ont-ils donc ce soir ?
C'est sans doute l'approche de l'orage.
Je vous envie de pouvoir vous attacher avec tant de passion à découvrir la signification de mots lus sur une vieille dalle. Pensez-vous avoir bientôt fini ?
J'ai fini, Martha. Je sais ce que dit la dalle. C'est épouvantable. Je ne suis pas certain des détails ou des nuances, mais le sens général y est.
Ah bon ?
Et cela nous concerne.
Vous êtes fou ?
Hélas, non. Je me suis servi de grammaire et de lexique venus du fond des âges. Cette langue n'est pas du terrien archaïque, et même pas de l'européen. C'est une langue locale, ayant concouru, sans doute, à la formation de l'européen, mais beaucoup plus ancienne. Elle a pris naissance dans une province appelée Latium, qui se trouvait probablement quelque part en bordure de la Méditerranée, pas très loin d'ici, en somme.
Que dit la dalle ?
Ici, mourut Pyrénée, fille de Bébrix, mère d'un serpent. Voilà pour la première face.
En quoi ça nous concerne-t-il ?
Attendez, il y a l'autre côté de la dalle. Après des siècles, le sang, ici il manque un mot, le sang revivra dans le corps des jeunes filles.
Après des siècles ? Le sang revivra dans le corps des jeunes filles ?
Deux lignes sont complètement effacées, mais j'ai encore déchiffré ceci. Ainsi passe le règne de l'homme et une nouvelle race toute puissante. C'est tout.
Qu'est-ce que ça veut dire ? Joachim, vous avez bien une idée.
C'est étrange, étrange et inquiétant. Le jour où nous avons vu bouillir le plasma, les jumelles ont chanté l'une de ces phrases. Sic transit hominis regnum.
Je m'en souviens.
Elle semblait la savoir par cœur. Et pourtant, cette phrase était cachée sous la dalle. Ah, Martha, j'ai la tête envahie par un océan de questions. Cette légende a-t-elle une base véridique ? Les hommes d'alors étaient-ils doués de prémonitions ? Et si tout cela n'est que symbole, voyez comme ce symbole s'applique à notre aventure.
Comment ? Expliquez-moi.
Vous, Martha, vous êtes comme Pyrénée. Qui eut un commerce coupable avec un certain Héraclès, monstre de force. Vous vous êtes allié à cette force terrible et maléfique qu'on appelle la science pour mettre au monde un serpent, pour donner le jour à ces jumelles inhumaines et monstrueuses. Le sang revivra, dit la dalle. Les lézards de mur seraient-ils les descendants du serpent enfanté par Pyrénée ?
Taisez-vous, Joachim. Écoutez.
On dirait le martèlement d'innombrables pieds sur les dalles.
Les jumelles. Elles sont des centaines.
Ça ne leur fait plus rien. Mes balles ne tuent plus. Elles piétinent sans arrêt. Elles deviennent folles, venez voir.
Ils parvinrent à la salle des gardes. Les jumelles, nues, se tenaient par la main en une interminable procession. Elles marchaient en silence, les yeux clos, les lèvres serrées. Hugo entraîna le couple le long de la lente procession. Ils remontèrent le courant humain, passèrent par de multiples escaliers où s'étirait la chaîne de jumelles, descendirent, remontèrent, firent plusieurs tours sous les combles, traversèrent une terrasse, se perdirent plus bas, et après de nombreux détours dont les jumelles formaient le fil d'Ariane, se retrouvèrent dans la salle des gardes. La ronde était bouclée.
Hugo, essaie de rompre la chaîne.
Mais je n'y arrive pas.
Tire sur leurs poignets, frappe à la jonction de leurs mains.
Mais j'ai beau tirer et frapper, leurs doigts semblent soudés les uns aux autres. Je vais chercher une arme tranchante pour les séparer.
Elles sont des centaines. Des centaines. Toutes semblables.
Martha, vous avez vu cette boule de feu rouler tout le long de la chaîne des jumelles?
Elles ont perdu leurs cheveux. Leurs yeux sont clos. Que veulent-elles? Où vont-elles?
Ah, voici Hugo. Il porte une lourde hache.
Pourquoi me font-elles souffrir ainsi?
Ne regardez pas, Martha. Hugo va frapper.
Non, Hugo, non!
C'est fini, Martha. Hugo ne peut plus nous entendre. Il est mort, foudroyé, tandis qu'il abattait sa hache.
Les jumelles avançaient toujours, à pas menus. Leurs têtes chauves luisaient de la pluie qu'elles avaient reçue sans doute en passant sur la terrasse. Et Joachim eut un recul à la pensée que cette pluie terrienne était radioactive. Il vit aussi que toutes ces têtes rondes n'avaient plus d'yeux, ni d'oreilles, ni de bouche. Elles n'étaient plus que des boules revêtues d'une peau unie et lisse. Leurs bras mous se raccordaient les uns aux autres et formaient un seul long serpent. Joachim ne voulut pas en voir davantage. Il entraîna Martha hors de la salle, la poussa dans les couloirs, s'enferma avec elle dans le laboratoire.
Allô? Oui?
Allô, allô. Ah, c'est vous, Joachim?
Oui.
Oui, est-ce que je peux parler au chef?
Martha est souffrante.
Quoi, c'est grave?
Non, un peu. Ce sont les nerfs, l'orage.
Oui, cet orage est d'une violence incroyable. Les éclairs paraissent prendre le château pour cible. Est-ce que tout va bien là-haut?
Non. Peut-être vaudrait-il mieux que vous veniez nous chercher. C'est intenable.
Enfin, par ce temps, ce serait presque un suicide, mon vieux. Le vent va culbuter le funiculaire.
Hugo est mort.
Quoi? Hugo?
Hugo est mort. Allô? 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 La communication est coupée. Il faut partir, Martha. Il faut partir d'ici.
Dans la salle des gardes, rampait un serpent à peau humaine. Il avait une trentaine de centimètres d'épaisseur. Interminable, il entrait par une porte et sortait par l'autre.
Ah, oh, Joachim.
Prenez garde, Martha. N'y touchez pas.
Voilà tout ce qu'il reste d'elle.
Oui. Elles se sont fondues les unes dans les autres. Et Dieu sait quelle vie secrète les anime. Venez, Martha, ne tardons pas. Il nous faut gagner le funiculaire. Les hommes d'en bas viendront nous chercher et je vous emmènerai dans un autre coin de l'univers où nous nous efforcerons d'oublier toutes les horreurs de la Terre.
Joachim et Martha étaient assis depuis des heures dans le tunnel du funiculaire. Ils attendaient.
Comment vous sentez-vous, Martha? Martha, je vous en supplie, répondez-moi. Mon petit oiseau blessé, je vous sauverai. Vous verrez. Je vous emmènerai très loin. Je vous guérirai. Ayez confiance en moi, Martha. Je vous aime. Je vous ai aimé à notre première rencontre. Mais je ne le savais pas encore. Laissez-moi vous le dire et vous le redire. Je vous aime. Je sais ce que cet aveu est de ridicule de la part d'un vieillard. Mais c'est ainsi. Je vous aime. Ma dernière joie sera de mourir en vous sachant sauvé. Oh oui. Je ferai tout pour vous sauver. Attendez-moi ici. Je reviens.
Joachim chaussa ses bottes, enfila un imperméable à cagoule transparente et mit des gants. Puis il se laissa glisser sur la pente caillouteuse du tunnel vers l'orifice qui découpait un demi-cercle de jour brumeux à une centaine de mètres plus bas. Bientôt, il fut dehors et clopina sur une pente humide jusqu'au bord d'une falaise.
Au secours ! Au secours ! Au diable, cette cagoule ! Au d'en bas ! Entendez-vous ? Venez sauver Martha !
Soudain, il entendit un rire saccadé qui venait du fond du tunnel.
Martha !
Il imagina la jeune femme aux prises avec le serpent et se hâta de remonter vers le tunnel.
Bicha, attends-moi ! Autour, Bicha, attends-moi ! Toutes les portes sont bien closes. Pourquoi? Et les buissons n'ont plus de ronces.
Martha! Martha! Revenez!
Dans le château désert, dans le château désert, on n'entend que le vent qui pleure. Pourquoi? Et le bourdon qui sonne l'heure.
Martha! Martha!
Grand lit doré. Sur un grand lit doré. La belle reine est allongée. Pourquoi? Sa couronne est de fleurs fanées.
Martha, arrêtez ce chant ridicule!
Ses yeux sont tout creusés. Ses yeux sont tout creusés. Et son beau corps est un tas d'or.
Martha, vous voilà, enfin.
Et son beau corps est un tas d'os. Dominus benedicat vos.
Martha! Martha, calmez-vous. C'est moi, Joachim.
Pourquoi?
Qu'y a-t-il, Martha?
Pourquoi? Depuis 2 ans, la reine est morte.
Ma chérie, ne pleurez pas. Je vais vous ramener au château. Nous attendrons les secours dans notre vieux laboratoire. Ce sera plus confortable. Ne pleurez pas. Tout ira bien. Vous verrez, tout ira bien.
La masse était là. La masse? Oui. Le mot s'était formé dans l'esprit de Joachim à l'aspect de ce tas de chair informe. Un monstrueux tas de chair humaine à peu près conique au milieu de la salle. On distinguait encore un peu les reliefs du long serpent qui s'était régulièrement levé sur lui-même avant de souder ses anneaux les uns aux autres. Et cela palpitait par endroits, cela vivait, cela se déformait un peu sous la peau nue, comme le ventre d'une femelle en grossesse, et phosphorait d'un feu violâtre, semblable à celui des vers luisants. Il vit la masse s'invaginer sur un point. Une bulle claqua, comme à la surface d'une pâte en cuisson, et du trou sortit quelque chose, une espèce d'appendice qui s'allongeait avec lenteur, comme une corne d'escargot, et pointait progressivement vers le biologiste. L'extrémité de l'appendice lui creva sous le nez et lui présenta, comme une fleur à croissance accélérée au bout de sa tige, une bouche. La bouche sourit, révélant des dents jeunes et blanches.
Tu as enlevé ta cagoule ? Tu es radioactif, Joachim. Mais au point où nous en sommes, ça n'a aucune importance.
Va-t'en !
N'aie pas peur, Joachim. Ni toi, ni Martha. Je n'ai que de bonnes intentions.
Va-t'en ! Va-t'en ! N'ayez pas peur, Martha. Je suis là.
Autour de la bouche, l'appendice déformable à volonté se renfla en boule, fit germer deux yeux, un nez, puis fut la tête aux cheveux noirs d'une jumelle souriante.
Tu vois ? J'essaie de ne pas te faire peur. Prendre cet aspect humain ne présente pour moi aucune utilité. Je le fais uniquement pour toi, Joachim, pour te tranquilliser.
Ne vois-tu pas que Martha s'est évanouie ? Va-t'en !
M'en aller ? Oh, pour te faire plaisir, je pourrais obéir. Mais le temps passe. Regarde Martha. Elle est presque morte de peur. Et ce n'est pas une expression exagérée. En fait, elle est vraiment sur le point de mourir. Il faut que je m'occupe d'elle. Arrière !
Joachim vit toute la masse s'enfler comme une vague de haute mer. Il recula. La vague claqua sur le corps étendu de Martha, l'ensevelit sous elle.
Martha !
Elle est sauvée. Ne crains rien pour elle. Je l'ai prise juste avant son dernier soupir. Elle vit en moi. Elle fait partie de moi.
Joachim vit la masse étirée comme une rivière au clair de lune sur toute la longueur du laboratoire. Elle formait lentement une boule au bout d'un prolongement flexible. La boule se modela en visage. Perdit de sa luminescence, elle fut la tête de Martha.
Oh, c'est horrible!
Est-ce mieux ainsi? Tu vois, Joachim, j'ai pris la forme qui offre le plus d'attrait pour toi.
Tu n'es pas Martha.
Oh, mais si! Non, je ne suis pas que Martha, bien sûr. Mais la tête qui te parle est bien la sienne. J'ai un métabolisme fantastique. Je peux rassembler les cellules de mon choix à une vitesse folle et les redisposer à mon gré. Écoute bien, c'est Martha qui parle, Joachim. Vous m'entendez ?
Je ne suis plus folle. Je n'ai jamais été si lucide. Et je vous prie de me faire confiance. Nous avons été les artisans involontaires d'une merveilleuse mutation. Le venin d'un reptile avait affecté les gènes de ma fille. Mais il a encore fallu nos pratiques pour donner naissance à un être nouveau, plus puissant, plus parfait que l'homme même, qui se nommait pourtant le roi de la création.
Plus parfait ? Ces jumelles démoniaques étaient des monstres névrosés. Elles étaient méchantes, et nous...
Chut, Joachim. Vous parlez sans réfléchir. Leur cruauté, le meurtre de leur sœur, n'était qu'une forme de l'instinct de conservation. À l'époque, nous les aurions tuées si j'avais pu garder une Lise normale. Elles le sentaient. Après, il était trop tard. Elles étaient devenues trop fortes pour nous. Un instinct sûr, un puissant tropisme les a poussées sous la pluie radioactive de l'orage. Et la mutation s'est achevée. Les temps sont venus, comme disait Shadan, le sorcier de Deimos Town. Et maintenant, c'est votre tour. Joachim, vous avez respiré des brumes dangereuses pour votre petit organisme humain. Vous êtes au bord de la tombe. Il faut que je vous absorbe et vous sauve du même coup.
Non. Non.
Je pourrais vous absorber sans vous demander votre avis. Mais je préfère vous séduire, Joachim. Et vous allez vous jeter de vous-même dans mes bras.
Jamais.
Oh, mais si.
Le visage de Martha s'éleva peu à peu vers Joachim. Des épaules rondes et délicates émergèrent de la rivière de chair lumineuse, puis des bras blancs. Un torse souple et jeune fut devant Joachim dans un état d'éblouissante nudité. Martha semblait une sirène à queue immense et chatoyante. Elle tendit les bras.
Joachim, je vous offre de mourir pour renaître aussitôt. Embrassez-moi.
Oh, c'est monstrueux, Martha. Je suis un vieillard.
Et vous n'avez jamais tenu une femme dans vos bras. Je veux que votre mort soit délicieuse, Joachim. Nous ne ferons plus qu'un dans un instant. De toute façon, vous êtes perdu. Je vous offre une mort vivante.
Partez. Disparaissez.
Votre pudibonderie est ridicule. Embrassez-moi.
Le visage ensorceleur fut tout proche. Une espèce d'extase naquit dans les yeux de Joachim. Ses lèvres tremblèrent. Il se pencha brusquement sur Martha et eut un vertige. Ses bras enlacèrent la silhouette captivante. Ses lèvres touchèrent une joue douce comme de la soie. Il eut un éblouissement de bonheur et ne fut plus rien. Toutes ses cellules ravies se perdirent dans une mer de félicité. La masse, maintenant, dévalait la pente de la montagne. Elle coulait comme de l'eau, se divisait sur le tranchant des rocs, se reformait plus bas, gobait au passage une limace, une fourmilière, un arbre penché sur le vide. Elle semblait une vaste gomme à effacer la vie. Elle fondit comme un ange exterminateur sur les bâtiments, les nettoya de tous leurs habitants. Plus tard, la masse deviendrait elle-même fusée et nue bondirait toute seule de planète en planète jusqu'aux confins de l'univers, se nourrissant de tout, de lumière et de matière.
Dans la série des émissions dramatiques de science-fiction, vous avez pu écouter « La mort vivante » de Stéphane Vull, adaptation radiophonique de Catherine Bourdet. Avec Judith Magre dans le rôle de Martha, Jean-Roger Caussimon dans celui de Joachim et Jacques Maire, l'inspecteur prêtre, Bernard Jousset, le contrebandier, Jean-Jacques Stine, le garde, Jacques Bouvier, Hugo, Ginette Franck, Ouna, Agathe Nathanson, Lise, Maurice Nazil, Chadan. Avec Annick Corrigan, Christine Simon, Catherine Laborde, Julie Pardaillan, Anima Dieta, Martine Couture, les petites filles. Et Pierre-Olivier, le récitant. Bruitage Louis Amiel, chef opérateur du son Marcel Grenier, collaboration technique Claude Massé, assistante Cécile Tranvan.